Laudetur Jesus Christus.
Le Vatican présente son groupe de travail pour aider à la protection des mineurs, nommé pour 2 ans. Il aidera les conférences épiscopales du monde entier à mieux lutter contre les abus sexuels. Comment fonctionne-t-il et qui le compose? On y revient en début de journal. Le ton monte entre Ankara et Damas. 33 soldats turcs ont été tués à Idleb par les forces syriennes. Moscou, allié de Damas, assure vouloir protéger les soldats turcs sur le sol syrien. Et conséquence directe de ces tensions, Ankara menace une nouvelle fois d'ouvrir le robinet des migrations vers l'Europe. La Grèce renfouille ses patrouilles aux frontières. Et puis enfin, nous ferons le point sur l'épidémie de coronavirus. 34 personnes sont mortes en Iran, 13 en Corée du Sud. Le Covid-19, qui est maintenant arrivé en Afrique subsaharienne, à Lagos, au Nigeria.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à tous. Aider les conférences épiscopales du monde entier à mieux lutter contre les abus sexuels, c'est l'objectif du groupe de travail qui vient d'être présenté au Vatican. Un groupe que le pape François avait souhaité mettre sur pied à l'issue du sommet sur la protection des mineurs organisé il y a un an. Vous nous donnez les détails, Olivier Bonnel.
Oui Marine, ce groupe de travail sera supervisé par Monseigneur Edgar Peña Parra, le substitut pour les affaires générales de la secrétaire d'État. Il sera assisté des cardinaux Oswald Gracias, un Indien, l'archevêque de Bombay, un Américain, le cardinal Joseph Supich, l'archevêque de Chicago, Monseigneur Charles Chicluna, l'archevêque de Malte et secrétaire adjoint de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et le père jésuite Hans Zollner, membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs et doyen de l'Institut de psychologie de l'Université pontificale grégorienne. Un groupe de travail qui a été nommé pour une durée de 2 ans. Il sera composé de canonistes de différents pays, a précisé la salle de presse du Saint-Siège, et sera coordonné par Andrew Azzopardi. C'est le responsable du service pour la protection des mineurs à l'archidiocèse de Malte. Celui-ci rendra compte chaque trimestre de l'avancée des travaux à Monseigneur Peña Parra. Alors sa tâche, vous l'avez dit, est d'assister les conférences épiscopales mais aussi les instituts religieux dans le monde dans la préparation et la mise à jour des lignes directrices sur la protection des mineurs telles qu'elles ont été établies par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il s'agit également de faire appliquer le motu proprio du pape François Vos Estis Lux Mundi du 7 mai 2019 qui établit par exemple l'obligation pour les clercs, les religieux ou les religieuses de signaler dans les meilleurs délais à l'autorité ecclésiastique les cas d'abus ou d'omission. La préparation des lignes directrices pour lutter contre les abus reste de la compétence et de la responsabilité des conférences épiscopales, a encore précisé le Saint-Siège.
Merci Olivier Bonnel. Et plus d'informations sur cette nouvelle force sur notre site internet vaticannews.va. On reste au Vatican. Le pape François a livré un message aux participants de l'Assemblée plénière de l'Académie pontificale pour la vie. L'intelligence artificielle change nos vies, a dit le pape, soulignant la nécessité pour les croyants de savoir interpréter ces nouveaux phénomènes. Le pape François qui a insisté sur le fait qu'un algorithme des éthiques doit être mis en place pour surveiller les rapports entre les êtres humains et les machines. Dans la province d'Idleb en Syrie, le ton monte une nouvelle fois entre la Russie qui soutient Damas et la Turquie. Au moins 33 militaires turcs ont été tués dans les frappes attribuées par Ankara aux forces syriennes. L'armée russe affirme aujourd'hui que les soldats turcs pris sous le feu de l'armée syrienne se trouvaient parmi les terroristes, ce que dément la Turquie. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoin.
Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont eu ce matin un échange téléphonique substantiel concernant la Syrie. Selon le communiqué du Kremlin, le maintien de la lutte contre le terrorisme international reste une priorité des deux présidents, qui estiment par ailleurs nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour normaliser la situation dans le nord-ouest du pays. En parallèle, la Russie a envoyé 2 frégates équipées de missiles calibre croisés en Méditerranée afin de soutenir l'effort de guerre en Syrie, alors que le secrétaire général de l'OTAN a annoncé une réunion d'urgence de l'Alliance aujourd'hui à la demande d'Ankara pour examiner le cas des 33 soldats turcs ayant péri sous les bombes syriennes. Une situation plutôt inédite qui a fait dire à Sergueï Lavrov que la Russie était déterminée à éviter de telles tragédies et qu'elle restait prête à travailler à la sécurité des soldats turcs en Syrie. Moscou accuse en effet ces soldats turcs de s'être trouvés aux côtés de terroristes armés au moment des frappes syriennes sans avoir été préalablement informés de leur présence dans la zone. Une affirmation qu'Ankara dément catégoriquement. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dit s'inquiéter d'un risque de confrontation militaire internationale majeure en Syrie. Il est urgent de mettre un terme à l'escalade actuelle, a-t-il déclaré. Réponse directe de la Turquie après la mort de ses soldats en Syrie. Elle agite une fois de plus la menace migratoire et décide de rouvrir ses frontières aux migrants, alors que la Turquie accueille plus de 3,7 millions de Syriens. Cela faisait plusieurs semaines qu'Ankara menaçait de passer à l'acte. Alors se dirige-t-on vers une nouvelle crise migratoire? Élément de réponse à Istanbul avec Anand Lawar.
C'est l'une des premières décisions annoncées par la Turquie à l'issue d'un conseil de sécurité qui a duré plus de 6 heures au palais présidentiel. Celle d'ouvrir les portes de l'Europe, ou, comme l'ont formulé des officiels turcs, de ne plus rien faire pour empêcher les migrants de tenter le passage en Europe. Concrètement, les forces de police, de gendarmerie, les douanes et les gardes-côtes turcs ont reçu l'ordre de ne plus intervenir, comme ils le faisaient systématiquement auparavant, s'ils détectent des migrants tentant de franchir les frontières terrestres entre la Turquie et l'Europe, ou de se diriger par bateau vers les côtes grecques. L'annonce a créé un premier appel d'air immédiat. Les médias turcs ont commencé à diffuser les images de dizaines de migrants marchant vers les frontières terrestres et maritimes entre la Turquie et la Grèce. Dans les faits, cela veut dire que l'accord migratoire signé en 2016 entre la Turquie et l'Union européenne n'est actuellement plus appliqué. Et que si la situation perdure, les mêmes causes pourraient provoquer les mêmes effets, c'est-à-dire une répétition de la crise de 2015. L'objectif principal d'Ankara est de semer la panique dans les capitales européennes pour les contraindre à la soutenir concrètement face au régime syrien et son allié russe à Idlib. À Istanbul, Anand Lawar pour Radio Vatican.
Et après l'annonce de la Turquie, la Grèce a annoncé renforcer ses patrouilles aux frontières. Le nombre de militaires a été doublé pour surveiller les frontières grecques terrestres et maritimes. Le coronavirus touche maintenant tous les continents. Un cas a été confirmé à Lagos, la capitale économique du Nigeria, mégalopole tentaculaire de 20 millions d'habitants. Le malade est un Italien qui revenait de Milan et travaille au Nigeria. Il est maintenant hospitalisé. C'est en tout cas le premier cas en Afrique subsaharienne, le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique. En Iran, on annonce 8 nouveaux décès liés à l'épidémie de coronavirus. Cela fait en tout 34 morts. Et à noter, selon les médias iraniens, le décès du théologien Hadi Rahoshahi, le premier ambassadeur de la République islamique au Vatican. Il avait pris ses fonctions en 1981. Et fait rare en Iran, la grande prière musulmane du vendredi est annulée à Téhéran et dans la majorité des provinces du pays. 571 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures en Corée du Sud. 2237 cas en tout dans le pays qui redouble d'efforts pour contenir sa propagation. La Corée du Sud effectue des tests de dépistage massifs et mène des opérations de désinfection dans les écoles, les églises ou encore dans les rames de métro. À Séoul, les précisions de Louise Paligiano.
Le coronavirus poursuit sa propagation en Corée du Sud, deuxième pays le plus touché par la maladie hautement contagieuse après la Chine. Parmi les mesures de prévention déployées, la distribution quotidienne de 3,5 millions de masques de protection dans les pharmacies, les bureaux de poste et d'autres établissements publics. Une nouvelle méthode de dépistage a également été mise en place à travers le pays, des centres de tests au volant qui permettent aux automobilistes souffrant de symptômes suspects de se soumettre à un test de dépistage de manière simple et rapide depuis leur voiture. Toutes les crèches du pays restent portes closes jusqu'à mercredi prochain dans le cadre des efforts du gouvernement visant à endiguer la progression du Covid-19 parmi les enfants. Dimanche, Séoul a annoncé que toutes les écoles primaires et secondaires reporteraient d'une semaine leur rentrée scolaire qui a lieu en mars en Corée du Sud. Les universités ont également été invitées à reporter leur rentrée de 4 semaines. Des mesures exceptionnelles alors que le pays connaît un nouveau pic de contamination. Assez au Louis Paligiano pour Radio Vatican.
Un accord sur la table lors du méga procès du Dieselgate. 400 000 clients ont attaqué le constructeur allemand Volkswagen. C'est la plus grande audience ouverte en Allemagne sur le scandale des moteurs truqués. Un accord a été trouvé aujourd'hui quant à la rémunération accordée aux plaignants. Volkswagen qui est accusé d'avoir délibérément nui à ses clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître les véhicules moins polluants qu'ils ne l'étaient en réalité. La chrétienne persécutée au Pakistan, Asia Bibi, reçue aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron. En début de semaine, Asia Bibi avait fait part de son désir de vivre en France. L'Élysée s'était dit prêt à l'accueillir. Condamnée à mort pour blasphème en 2010 au Pakistan et acquittée 8 ans plus tard, Asia Bibi avait pour l'instant trouvé refuge au Canada. voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain retour de la formation, c'est tout à l'heure à 18h, heure de Rome. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous souhaite une très belle après-midi.